l'universalité, l'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle, l'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle repose sur la controverse existante entre les individualités d'écriture et l'instinct surréaliste sous-jacent chez la plupart des auteurs, tout en respectant la linéarité de la pensée du monde occidental.
Oh la vache!
Pilotage, la philosophie à tous les âges.
La philosophie, ça devrait plutôt être une ouverture sur le monde, se dire voilà, la philosophie c'est quelque chose d'ouvert, vous pouvez avoir toutes les opinions, donc profitez-en, dites ce que vous voulez.
Alors, est-ce que vous aimez ça, vous, la philosophie ?
J'aime parce que j'aime bien les histoires que tu racontes, j'aime bien parler, et surtout qu'on parle dans le micro.
Philotage, la philosophie à tous les âges. Bonjour et bienvenue sur Radio Saint-Aff pour Philotage, l'émission qui fait philosopher à tout âge. Ce mois-ci, en plein entre-deux-tours de la présidentielle, quel autre thème plus pertinent que la politique ? Alors, par politique, je n'entends pas parler d'actualité. Déjà parce que l'émission étant enregistrée à l'avance et non pas en direct, j'ignore absolument, au moment où je vous parle, quels sont les candidats en lice pour le second tour. Mais aussi parce que mon but n'est pas de comparer les programmes, ou d'analyser les résultats, mais de questionner ce petit mot étrange, et pourtant si familier en ce moment, la politique. Afin de le décortiquer comme il se doit, nous irons tout d'abord faire travailler les jeunes méninges de mes petits philosophes du mercredi. Puis nous écouterons l'interview de Cyril, ancien étudiant de Sciences Po et assistant parlementaire au Sénat. Alors, politique, qu'est-ce? Déjà, il faudrait savoir si l'on parle de la politique ou du politique. Et oui, mes cocos, selon que l'on emploie le féminin ou le masculin, le mot n'a pas tout à fait le même sens. Au féminin, la politique, c'est l'art de gouverner la cité, de diriger l'État. Et si l'on évoque la cité, non pas la banlieue mais la ville au sens grec du terme, c'est bien parce que ce mot de politique y trouve ses racines, polis signifiant en grec, et ben, la cité. Quand on a inventé la démocratie et la philosophie, on a le droit d'un peu se la péter. Au masculin, le politique prend un sens plus sociologique et désigne l'ensemble des institutions, par opposition par exemple à la sphère économique. Les deux entrant souvent en collusion, pour le meilleur et pour le pire, notamment en période de crise.
Viendra un jour, mon patron me dira allez, je vous augmente aussi, mais aujourd'hui je vous licencie. Merci au pot de la langue de bois, merci au rat d'un millionnaire. Donnez des pièces jaunes à Carla pour qu'elle nous sorte de la galère. Merci aux banques sans foi ni loi, le pouvoir d'achat ne me connaît pas. La seule bourse, ça c'est bien pour moi, c'est celle que je touche à la fin du mois. Alors pour toute l'hypocrisie, un grand merci à Sarkozy. Grâce à vous tous, on se dit bon Dieu, dans quel monde on vit.
Du FMI au RMI,
de l'ISF à SDF,
des ministères à la misère,
de la CGT au MEDEF,
du caniveau à la tête de l'État,
surtout pour ceux qui connaissent la crise. Je lève mon verre à votre santé avant qu'on se fasse tous sauter. Moi dans la vie je m'en fais pas, je bouffe des pâtes à tous les repas. Embrasser pour moi la famille pendant que mes frères crient à la famine.
capable, tout est possible.
C'est pas grave, on vous pardonne quand dure le monde à sa perte. Bien sûr, vous avez la donne, nous on fera avec les restes. On reprend une part de conneries pour le dessert. Je sais que t'en as marre, mais y'a que ça qui reste pas cher. Je vous jette pas la pierre, vous qui bossez comme des fous pour nous sortir de la galère. Après tout, j'ai voté pour vous. La croisière s'amuse pendant qu'on patoche dans la boue. Excusez-moi, j'appuie, je suis dans la mer jusqu'au cou.
Du FMI au RMI,
l'ISF à SDF,
les ministères à la misère.
Et oui, je vis au crochet de l'État. Je m'en fous, je peux planter ma société. On fera tourner la planche à billets. Sans parachute, c'est le crash assuré. À moins d'être un bon pote à clavier. Le fait du roi est devenu loi. Et ça se passe juste en bas de chez moi. Merci aux ministres de l'ouverture qui ont fait de la France une caricature. Merci à tous de nous prouver que vous êtes tous dans le même panier. J'aurais voulu être socialiste si j'écoutais mes rêves d'enfant. Et tous ces beaux noms sur les listes sont dans le cimetière des éléphants.
En bas du rété comme hiver, y'a pas saison pour la galère. Pour les vacances, on reste chez nous, au prix de l'essence, faut créer à tout. Et expliquez-moi, vous à la tête de l'État, je comprends pas, j'ai pas fait Sciences Po ou l'ENA. Merci aux puissants pour les 1%. J'en demandais pas tant, moi RSA m'attend. De toute manière, qu'est-ce qu'on y peut? On est pauvre avant d'être vieux. Prends les choses du bon côté, on est vivant, qu'est-ce que tu veux de mieux?
RMI,
de l'ISF à SDF,
des ministères à la misère,
de la CGT au MEDEF,
du caniveau à la tête de l'État.
C'est la crise. En chanson, ça passe un peu mieux, mais ça fait bien mal quand même. Reste à savoir, pour revenir à nos moutons, ce que l'on attend de ceux qui nous gouvernent en ces temps difficiles. Organiser la cité? Très bien. Oui, mais comment? Selon quel principe? L'intérêt commun. La volonté générale. Voilà un mot qui a de la gueule. Et pour faire ma rousseauiste, je l'opposerai aux intérêts personnels et égoïstes des volontés particulières. Mais que se passe-t-il lorsque ce fameux intérêt commun entre en contradiction avec mon intérêt particulier à moi? Doudou Lapin, à toi. Alors, cette semaine, on va parler de politique. Il se trouve que dans la classe de Sophia, au début de l'année, on a fait l'élection des délégués de la classe. Il y avait 4 élèves qui se sont présentés et tous, ils ont fait un petit discours pour dire pourquoi ils se présentaient, pourquoi ils voulaient être délégués de la classe. Alors d'abord, il y a eu Mathieu qui s'est présenté et qui a dit « Moi, il faut que je sois délégué parce que je suis le premier de la classe. C'est moi qui ai les meilleures notes. » Ensuite, il y a eu Pauline qui s'est présentée en disant « Moi, j'ai une piscine à la maison. Si vous votez pour moi, vous pourrez venir vous amuser tous les week-ends dans ma piscine. » Et ensuite, il y a eu Nathalie. Et Nathalie, elle a dit « Il faut voter pour moi parce que si vous votez pour moi, je ferai de mon mieux pour être la meilleure déléguée possible. » Alors Sophia, elle s'est demandé pour qui il fallait voter. À votre avis, elle a voté pour qui, Sophia?
Pour Nathalie. Parce que... une piscine, c'est bien, mais aussi il faut être gentil. Si on est méchant, même si elle a une piscine, ben on va pas vraiment s'amuser.
Moi, j'aurais dit aussi Nathalie parce que la piscine, c'est... Ben, même si on pourra s'amuser dans la piscine, il faut au moins pouvoir faire des jeux. Mais moi, j'aurais voté, si je serais à la place de Sophia, j'aurais voté pour Nathalie. Parce que la piscine, même si c'est amusant, eh ben, il faut mieux être... Même si on s'amuserait bien dans la piscine, il faut voter pour celui qu'on préfère.
Alors, on ne voterait pas pour Pauline, du coup, parce que aller dans la piscine, c'est rigolo, comme vous avez dit, mais ça ne fait pas d'elle un bon délégué. Et Mathieu, alors, qui a dit « Moi, je suis le premier de la classe, il faut voter pour moi. » Vous en pensez quoi ?
C'est mieux Nathalie aussi, parce que c'est pas parce qu'il est le mieux de la classe qu'il est très très gentil et qu'il peut être bon délégué.
Et c'est quoi un bon délégué ? Alors c'est quoi un mauvais délégué ?
C'est lui qui il dit des choses qui sont bien, et alors on vote pour lui, mais après il le fait pas.
Oui, et alors, quelqu'un qui serait un bon délégué, c'est-à-dire qui représenterait bien toute la classe et qui défendrait bien les intérêts de la classe, il ferait comment ? Alors, pour comprendre ça, il faut raconter la suite de l'histoire. C'est Nathalie qui a été élue, comme vous en doutez. Et Nathalie, elle n'a pas toujours des très bonnes notes en classe, mais la semaine dernière, quand il y a eu la dictée, elle a eu une très bonne note parce que c'est tombé sur un texte qu'elle connaissait, parce qu'elle l'avait lu avec sa maman à la maison. Et du coup, elle a eu une très bonne note, alors que d'habitude, elle n'est pas très forte en dictée. Mais tout le reste de la classe a eu des très mauvaises notes parce que le texte était un peu difficile. Et alors tous les élèves ont été voir Nathalie en disant « Il faut aller demander à la maîtresse d'annuler la dictée et de la refaire pour nous donner une seconde chance. » Et Nathalie, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Parce que si on refaisait la dictée, elle n'était pas sûre d'avoir une aussi bonne note. Mais en même temps, tous les autres élèves de la classe voulaient qu'on refasse la dictée. Alors à sa place, vous auriez fait quoi ?
Moi, j'aurais refait passer... la dictée parce que en même temps elle est seule à ne pas vouloir, alors que si elle fait ce qu'elle veut, bah c'est un peu pour elle-même et les autres, bah c'est comme si elle les laissait tomber, alors que si elle le fait pour les autres, bah c'est mieux.
Moi j'aurais dit pareil, il faudrait refaire la dictée parce que comme a dit Madeleine, elle est toute seule dans son coin, si elle la refait pas, eh bien, elle est toute seule et les autres peut-être qu'ils ne voteraient pas pour elle, mais ça c'est pas grave.
Et même si elle doit avoir une plus mauvaise note la deuxième fois, elle doit le faire, hein ?
Oui, parce que de toute façon la première note elle va pas disparaître, elle aura toujours la première note qui est bien.
Et mettons que les élèves demandent à la maîtresse d'annuler la dictée, de ne pas compter la note. Du coup, elle disparaît, sa bonne note qu'elle a eue. Alors, est-ce qu'elle doit quand même demander ça à la maîtresse ? Au risque de faire disparaître sa bonne note.
Si elle a envie de faire plaisir à ses copains, eh bien, elle la refait. Et après, si elle veut être toute seule dans son coin, eh bien, elle l'aurait fait juste pour elle et ça ne serait pas bien.
Peut-être qu'elle aura une meilleure note quand elle fera un autre travail.
Et alors peut-être que là, ça peut nous aider à répondre quand même à la question « C'est quoi un bon délégué ?» Comment elle fait pour être une bonne déléguée, Nathalie ? Il faut qu'elle pense à quoi ?
Aux autres. S'ils disent tu peux... dire des explications, bah faudra le faire. Alors que s'il y a quelqu'un qui le fait pas, enfin, si Nathalie elle le fait pas parce qu'elle a tout bien compris, bah c'est pas une bonne déléguée.
Moi j'aurais dit qu'une bonne déléguée c'est qu'elle s'occupe aussi des autres, qu'elle pense pas que à elle et que ça serait bien de refaire la dictée. Comme ça, eh bien, elle serait une bonne déléguée.
Alors, quelque part, le délégué pour la classe, c'est un petit peu comme le président pour un pays. Alors, vous pensez que ça sert à quoi, un président dans un pays ?
C'est pour diriger le pays, dire ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire.
Et alors, c'est quoi un bon président ?
C'est ce qui... qui disent, parce que s'il y en a qui disent ce qu'ils veulent, mais ce qui n'est pas bien, c'est pas un bon président. Alors que si il voulait un autre truc, mais c'est pas bien, alors il fait la chose qui est bien, bah c'est un bon président.
Peut-être un petit tour où on va solliciter un petit peu les mamans pour demander ce que c'est la politique. Ça veut dire quoi s'occuper de politique ?
Ben, s'occuper des affaires du pays, dans l'intérêt des personnes, de toutes les personnes.
Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, vous, de politique ? Est-ce que c'est un mot que vous avez déjà entendu ?
Moi, je l'ai entendu, mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
Moi, je l'ai entendu. J'ai parlé à mon père et il m'a dit le mot politique. Et ben après, moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, mais je ne lui ai pas demandé qu'est-ce que c'était.
Et alors, vous n'avez pas une petite idée un petit peu vague, hein, même si ce n'est pas vrai, même si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave, hein, vous pouvez faire des erreurs. Une petite idée de ce que ça veut dire, même de loin, de quoi ça parle ?
Peut-être que ça parle de président. Que c'est le président qui s'occupe du pays et ça s'appelle la politique.
Alors c'est un petit peu ça, oui, la politique, c'est quand on s'occupe d'un pays, qu'on dit un petit peu comme le délégué de la classe, qu'on essaye de défendre les intérêts des autres et qu'on essaye d'organiser la vie de tout le monde, de dire oui, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, etc. Il n'y a que le président qui fait de la politique ? Que le président qui essaye de faire qu'on vive tous bien en respectant les lois et tout ?
Des fois, il y a les policiers. Ou les gendarmes. Le maire. Et aussi, des fois, il y a les parents qui grondent les enfants pour leur dire que ça, c'est pas bien. Par exemple, il ne faut pas jeter les papiers par terre, il faut les mettre à la poubelle.
Le ministre ? Il dit ce qu'il faut faire au président. Comme ça, s'il a des idées, le président, il pourrait le dire.
Alors là, tout d'un coup, on a plein de personnes, hein, plus que le président. Donc le président, les ministres, hein, parce qu'il y en a plusieurs, les maires aussi, hein, comme vous disiez, et puis les parents. Pourquoi les parents, ils font de la politique ? Tu disais, quand ils disent aux enfants, il ne faut pas jeter un papier par terre, c'est de la politique. Mais exactement, c'est de la politique, ça, pourquoi ?
Parce que on sait ce qu'il faut. Parce que si on jette un papier par terre, c'est pas bien parce que ça pollue. Alors il faudrait pas le faire, même si nos parents ils disent de le faire.
Parce que ça va tuer les arbres. Et les arbres, ça nous sert de respirer. Et donc si on jette un papier par terre, on va mourir.
Alors si je jette un papier par terre, ça va pas me faire du mal à moi, mais ça peut faire du mal aux arbres, à la nature, ou compliquer le travail du monsieur ou de la dame qui doit nettoyer par terre. Donc quelque part, si je jette pas le papier, est-ce que c'est pour moi ? Ou est-ce que c'est pour l'arbre, la nature, ou le monsieur qui nettoie par terre ?
C'est pour... c'est pas pour nous, mais c'est pour la nature, les arbres, et ceux qui nous l'ont dit de faire, et bien ça veut dire qu'ils sont méchants, parce que c'est pas bien de jeter quelque chose par terre. Même si c'est quelqu'un qu'on connaît qui nous l'a dit.
Et alors du coup, vous, est-ce que vous en faites de la politique ?
Moi, une fois à l'école, il y avait quelqu'un qui est passé en courant devant quelqu'un d'autre et il lui a fait un croche-patte alors qu'elle n'avait rien fait. Et du coup, moi, j'ai dit pourquoi tu l'as fait et il est parti.
Et alors ça, c'est de la politique, de dire il faut pas faire ça, il faut pas être méchant, faire un croche-patte à quelqu'un qui t'a rien fait, et tu es intervenu alors que c'était pas à toi qu'on t'avait fait mal. Hein? Et alors ça, c'est de la politique aussi, pourquoi ?
Parce que faut pas le faire, c'est pas bien, et quand on dit ce qu'il faut pas faire ou ce qu'il faut faire, c'est de la politique.
Peut-être parce que Madeleine voulait savoir pourquoi elle lui a fait ça. Et lui, comme il n'avait pas de raison trop, alors il est parti. Le directeur, il fait la politique à l'école.
Pourquoi tu dis ça ?
Parce que c'est ma mère qui me l'a dit.
Le directeur à l'école, il donne les... Enfin, il dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Voilà.
Moi, une fois, il y avait quelqu'un qui me volait tout le temps mon ballon. Et je le disais au maître et maîtresse et il n'arrêtait jamais. Et à un moment, le directeur est passé, j'ai dit au directeur et là, il a été puni et après, il a arrêté. Une fois dans la classe, il y avait deux garçons qui étaient à côté d'une copine à moi. Et en fait, il y avait un premier garçon, il a tapé, l'autre il a fait. Et après, ma copine, elle a pleuré. La maîtresse, elle est venue la voir. Elle a dit qu'est-ce qu'il y a. Elle a raconté ce qu'il lui a fait. Et après, comme punition, ils sont allés voir le directeur. Ils étaient obligés de ramasser tous les papiers de la cour.
Alors, pour terminer, vous allez essayer de réfléchir à ce que vous feriez si vous étiez président ou présidente.
Moi, j'écouterai les autres, je penserai pas que à moi, je penserai aux autres. S'ils ont des idées, ils me le diraient. Et moi, j'essayerai de faire un petit peu ce qu'ils me disent. Et voilà.
Moi, j'essaierai de faire plaisir aux autres, mais aussi de faire des choses bien, parce que si ils veulent faire un truc mal, je vais pas le faire. J'ai essayé que tout se passe bien et voilà.
L'aspect théorique de la politique, c'est déjà une sacrée prise de tête. Mais l'aspect pratique nous entraîne plus loin encore, dépassant la simple prise de tête de plusieurs kilomètres. Réfléchir à l'organisation de la société n'est pas aisé et n'a pas toujours donné de bons résultats. Personnellement, la vie dans la République imaginée par Platon dans l'œuvre du même nom, très peu pour moi. Mais réfléchir est un luxe que les gouvernants ne peuvent se payer qu'en un temps limité, puisqu'il y a un moment où il faudra bien agir. Sortons donc de la théorie et lançons-nous dans la pratique. Faut-il alors se ranger aux côtés de Machiavel et d'un réalisme politique désillusionné et un brin cynique ?
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Je me rends compte que le tableau que je brosse de la politique depuis le début de l'émission n'est pas tout à fait flatteur. Et mes choix en matière de philosophe comme de musique sont un peu orientés. Comme la plupart des auditeurs qui nous écoutent, la politique est un monde que je ne fais qu'observer. Et encore, je n'ai pas la télé. Mais l'idée est là. Pour la majorité des citoyens, ce monde est lointain. Quand au contraire, la difficulté de trouver un emploi, de contracter un emprunt, de financer les études des gamins, de vivre au quotidien, est là, tout près, chaque jour, de manière on ne peut plus concrète. Il serait intéressant de s'approcher un peu de ce monde de la politique, que nous n'entrevoyons que de l'extérieur. C'est pourquoi nous allons rencontrer Cyril, ancien étudiant à Sciences Po et assistant parlementaire au Sénat, qui a appris à connaître cet univers particulier de la politique. Bonjour Cyril, est-ce que tu veux bien déjà te présenter pour nos éditeurs ?
Oui, bien sûr. Je m'appelle Cyril Novakovic, j'ai aujourd'hui 24 ans et je travaille donc depuis bientôt un an au Sénat. Dans un premier temps, c'était en tant que stagiaire au groupe socialiste. Aujourd'hui, c'est auprès d'un sénateur, donc toujours socialiste évidemment, et ça fait depuis maintenant 5 mois. Voilà, sinon j'ai suivi des études à Paris, et puis j'ai eu la chance d'entrer à Sciences Po après le bac, et j'ai effectué un master affaires publiques, qui est le master le plus général, et qui permettait de ne fermer aucune porte. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi.
D'accord. Et justement, par rapport à tes études à Sciences Po Paris, tu es rentré juste après le bac, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Mmh. Et alors, tu vas avoir 17, 18 ans, qu'est-ce qui motive un jeune à cet âge-là pour rentrer à Sciences Po ?
Bah alors, pour être tout à fait honnête, moi j'ai toujours eu des gros problèmes pour l'orientation. Ça a commencé dès la 4e avec le choix de la LV2 et ça m'a poursuivi jusqu'aux grandes études, jusqu'à l'après-bac. Et pour être tout à fait honnête, moi j'ai entendu parler de Sciences Po en terminale parce que j'avais vraiment des gros problèmes d'orientation et je ne savais pas du tout quoi faire après. Et je suis allé voir un conseiller d'orientation, mais en dehors de l'école, puisque comme bien souvent, le conseiller d'orientation du lycée ne servait strictement à rien. Mmh. Et donc, vu mes notes et mon appétence pour les matières littéraires et mon profil, il m'a dit il faudrait tenter le concours de Sciences Po. Et j'ai eu également de la chance, puisque ma mère s'est quand même beaucoup occupée de ça également, puisqu'il y avait la préparation du bac en parallèle. Et j'ai fait après donc la prépa d'été, qui permet de rentrer plus facilement, ou en tout cas ça prépare beaucoup mieux que si on le fait par soi-même. Et donc j'ai passé le concours et ça a fonctionné. Mais ça n'a pas été... disons que c'était pas, comment je pourrais dire, quelque chose qui était défini à l'avance. C'était pas forcément un choix qui était inné, on va dire.
Alors, et à cet âge-là, donc, en préparant ce concours de Sciences Po, quelle image tu avais de ce monde de la politique ?
C'est encore une image que j'ai encore aujourd'hui, même si je suis encore dans le milieu, un regard très critique, vraiment très critique dès le début, peut-être également vu le contexte familial et tout ça, mais c'est vrai que je suis dans une famille plutôt d'origine modeste, et donc il y avait toujours un regard assez critique, on va dire, vis-à-vis de la politique et des politiciens surtout, avec toute la partie un petit peu instrumentalisation et de l'opinion, le côté « faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais ». Et donc au début, j'étais pas... Comment je pourrais dire ? Je suivais la politique d'assez loin. Mon premier grand souvenir politique, c'est le 21 avril de 2002. C'est vraiment le premier moment politique qui m'a marqué. Mais sinon, à part le référendum en 2005 également au niveau européen, j'avais pas de souvenirs politiques très 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 précis. C'est qu'ensuite, une fois que j'étais à Sciences Po et qu'effectivement là où la politique est omniprésente, où je m'y suis intéressé vraiment de près, et bien que j'ai toujours eu un peu ce regard critique, je m'y suis véritablement intéressé et j'ai essayé même de m'engager à mon petit niveau. Voilà.
Et donc, tu n'étais pas tout à fait politisé avant de rentrer à Sciences Po, donc.
Non. Puis même pendant Sciences Po, j'ai toujours eu donc, des idées tournées de gauche. Mais je ne me voyais pas vraiment non plus adhérer à une ligne d'un parti politique. Parce que j'ai toujours estimé, même encore aujourd'hui, j'estime que parfois le parti peut être un véritable carcan. Il y a un véritable problème, ça je pense, en France, au niveau du rôle des partis politiques, qui emprisonne à la fois les gens, j'ai envie de dire, ceux qui adhèrent au parti, et également qui peuvent rendre prisonniers les adhérents, puisque finalement le débat est complètement stéréotypé, c'est toujours les mêmes personnes qu'on rencontre, c'est toujours le même cadre, et on ne peut pas véritablement sortir, ou quand on sort, on est tout de suite catalogué, et c'est, je trouve, un des défauts qu'il faudrait corriger à l'avenir.
D'accord. Et quand tu as commencé alors tes études à Sciences Po, puis ensuite surtout à travailler au Sénat. Quels sont les aspects de la politique qui t'ont surpris, que ce soit en bien ou en mal? Est-ce qu'il y a des aspects auxquels tu t'attendais vraiment pas?
Alors attends, je réfléchis en même temps. On va dire en bien, c'est l'un des aspects les plus positifs que j'ai vu, c'est qu'il y a quand même globalement un véritable, en tout cas je parle au niveau du groupe socialiste, au Sénat, c'est qu'il y a un véritable travail de groupe. Il y a très peu de francs-tireurs, il y a très peu de personnes quand même qui font les choses dans leur coin et puis qui, au dernier moment, donc mettent devant le fait accompli leurs camarades. Il y a quand même un véritable esprit de groupe. Après, en mal, on va dire, c'est qu'il y a une très grande hétérogénéité au niveau du niveau des sénateurs, par exemple, pour faire court. C'est qu'on a des sénateurs qui s'investissent énormément, qui travaillent beaucoup, et on en a d'autres qui sont là, plus on a l'impression, un petit peu en dilettante, ou qui se laissent aller. Bon, alors, bien évidemment, par exemple, quand on a un renouvellement sénatorial, comme c'était le cas donc en septembre dernier, il faut toujours une période d'adaptation. Le Sénat est tellement une institution qui... Enfin, rien que les bâtiments, il y en a tellement que ça peut être assez impressionnant et il faut s'y habituer. Mais il y a parfois également un côté, chez certains sénateurs, qu'on peut dire Club Med quand même. Voilà, on monte sur Paris, c'est un petit peu la détente, c'est un petit peu la cour de récré. Et c'est vrai que ça, c'est quand même assez surprenant, surtout quand on voit le contexte actuel. Mais bon, ça reste une minorité, il ne faut pas non plus...
Oui, d'accord. Et donc, l'émission là, de ce mois-ci, Filotage, le thème, c'est la politique.
Oui.
Et on essaye de définir un petit peu ce que ça veut dire, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, sans forcément savoir ce que ça veut dire. Pour toi, ça veut dire quoi, la politique?
La politique... Moi, je la définirais peut-être de manière très simpliste, peut-être trop d'ailleurs, mais c'est tout simplement la gestion des affaires publiques qui concerne les problèmes de la population, tout ce qui touche au bien public. Ça peut être... c'est très large, mais c'est potentiellement... C'est vrai qu'une fois, on discutait avec un ami, il me disait la politique, c'est pratiquement tout. C'est, quelque part, c'est assez vrai. Ça peut aller de... définir par exemple au niveau local la hauteur des trottoirs, un truc tout bête, mais ça peut également être la question de la gestion des énergies et ainsi de suite. Vraiment la gestion des affaires publiques.
D'accord. Et donc du coup, le terme d'homme politique est peut-être un petit peu inexact, puisque dans ce cas, nous serions tous des hommes politiques.
Oui, c'est vrai. Dans la mesure où chacun peut essayer et peut également participer à la gestion des affaires publiques. Mais alors on pourrait rajouter également la dimension élective. Le fait que détenir un mandat, avoir remporté un suffrage, c'est vrai qu'on fait peut-être également peut rentrer dans la définition de la politique et de l'homme politique pour le coup.
D'accord. Et alors toi, en quoi consiste exactement le travail que tu fais au Sénat?
Alors en fait, donc le métier d'attaché parlementaire, bon, il y a plein de noms, hein, collaborateur ou assistant parlementaire, dépend totalement de ce que souhaite le sénateur, puisqu'il peut en gros avoir environ 3 collaborateurs. Il peut les répartir donc soit au Sénat, soit en circonscription. Donc moi, là, sur Paris, je suis tout seul, mon sénateur étant de Corrèze. J'ai pas fait exprès, mais pour le coup, c'est vrai que ça tombe quand même plutôt bien. Mais oui, donc moi, je suis tout seul sur Paris. Et mon boulot, en gros, ça va des tâches administratives, c'est-à-dire de gérer l'emploi du temps un petit peu du sénateur, lui faire remonter tout ce qui est un petit peu demande de rendez-vous, à également la rédaction des courriers, puisque le courrier est quand même une part importante du travail, puisque c'est ce qui nous permet également d'être saisis des problèmes et des préoccupations, que ce soit des associations, des citoyens ou encore des praticiens. Ça peut être donc, par exemple, moi je suis à la commission mon sénateur est à la commission des affaires sociales, donc ça peut être des orthophonistes, des chirurgiens, ainsi de suite. Il y a également tout l'aspect, donc ce qu'on appelle veille législative. Tout simplement le suivi des travaux parlementaires, les propositions de loi, les projets de loi. Et également, j'ai la partie rédaction de ces interventions quand il prend la parole en séance publique, c'est-à-dire lorsque le texte est discuté, ce qu'on voit parfois à la télé. Et il y a également tout l'aspect un petit peu communication, mais ça, c'est vraiment très ponctuel.
D'accord.
Donc voilà, c'est vrai, pour le coup, moi, c'est très divers. Je sais que pour certains de mes camarades, c'est un peu plus particulier. Ça peut aller spécifiquement à la rédaction des interventions ou au contraire être que du travail administratif. Pour le coup, moi, c'est un petit peu, comme je suis tout seul sur Paris, c'est un petit peu l'ensemble.
D'accord. Et pour la suite de ta carrière professionnelle, tu comptes continuer à travailler comme ça ou il y a une évolution de carrière
hein? Alors en fait, pour être tout à fait honnête, moi j'ai longtemps voulu faire du journalisme. Et donc là, en parallèle, je continue un petit peu à mener ma barque de ce côté-là en écrivant régulièrement des articles. Voilà. Et je me suis lancé donc dans un projet... voilà, journalistique qui consisterait à écrire, c'est en fait, comment je pourrais expliquer ça? Ce serait en trois temps, donc il y aurait une partie avec une brève très rapide, après donc une fiche technique qui renverrait, par exemple, si on a un exemple, 9000 morts, l'ONU déclare qu'il y a eu 9000 morts en Syrie, pour prendre une actualité assez récente, voilà, spécifier ce que c'est l'ONU, où est la Syrie et tout ça, et après un dernier point qui serait un petit peu de creuser, en mettant des points de vue, des chroniques, voilà. Donc ce serait de constituer une petite équipe également de journalistes. Donc je mène ce projet en parallèle. Mmh. Et puis, sinon, concernant spécifiquement la politique, bah pas vraiment. Pour le coup, bon, c'est vrai que c'est un début de carrière, donc c'est difficile également de se projeter. J'entends souvent dire qu'il y a des opportunités pour, notamment si la gauche et le Parti Socialiste et François Hollande est donc élu, en mai, peut-être qu'il y aurait des opportunités pour entrer dans des cabinets, mais même moi, je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir l'envie, étant donné l'ambiance que ça peut être, ou même le rythme de travail, donc c'est à voir. En termes politiques, je suis plus au niveau, on verra ce qui peut se présenter, que, on va dire que quelque chose de prédéfini à l'avance.
D'accord.
Voilà, mais je préfère plutôt réfléchir en termes de passerelle et plutôt peut-être également m'orienter après, si possible, vers le journalisme.
Et un journalisme qui serait politique?
Oui, plutôt. Oui, qui traiterait... Moi, j'aime bien tout ce qui est question internationale, même les questions nationales, mais c'est vrai que j'ai une appétence certaine pour tout ce qui est affaires internationales. Donc, bon, c'est vrai, tout ce qui est un petit peu géopolitique m'intéresse beaucoup. Donc, peut-être sur ça. C'est pour ça qu'en parallèle, je continue un petit peu d'écrire pour creuser cette piste et puis même pour me faire plaisir.
D'accord. Après tout, puisque, comme dit Aristote, nous sommes des animaux politiques, le journaliste, lui aussi, fait œuvre de politique, quelque
part.
Tout à fait.
Bah, ça revient tout à l'heure, enfin, à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on disait que tout le monde peut traiter un petit peu de la politique et des affaires publiques, c'est tout à fait vrai. Surtout maintenant, avec tout ce qui s'est développé au niveau des moyens de communication, on voit bien, même par exemple, là, c'est vrai, quelque chose qui m'avait marqué, moi, c'était le mouvement du printemps arabe l'année dernière. Mmh. Les réseaux sociaux étaient extrêmement actifs. On a vu à quel point le citoyen, pour le coup, était devenu véritablement un acteur politique.
Bon, et ben merci beaucoup.
Ben, je t'en prie. Voilà,
c'était très gentil de m'accorder cette interview.
Ben, je t'en prie.
Ben, merci et bonne chance pour la suite.
Ben, merci à toi et puis à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Un grand merci à Cyril qui a bien voulu se prêter au jeu de l'interview et nous éclairer sur le monde de la politique. J'allais dire sur l'univers impitoyable de la politique, mais ça fait un peu trop Dallas. Et puis, monde à part, on ne déjeune peut-être pas tous les jours à la cantine du Sénat, mais la politique nous la faisons nous aussi, surtout en ce moment. J'ai envie de dire que les députés, sénateurs, candidats et tout le tintouin, ce sont les politiques professionnels. Eux, ils travaillent dans la politique. Nous, nous la faisons, nous la vivons. Et pas seulement en tant que citoyen électeur, notre bulletin de vote à la main. Mais aussi tout simplement en tant que citoyen, tout court, en tant qu'hommes et femmes qui vivons en société et qui devons nous arranger des autres autour de nous et organiser, à notre niveau, la vie en commun. Si on en croit mon pote Aristote, l'homme est un animal politique. Mais à son époque, tous ne peuvent laisser s'exprimer leur nature politique et certains, les esclaves, doivent bosser dur pendant que les maîtres, les citoyens libres, vont réfléchir de l'organisation de la cité au forum. Tout a changé depuis, et tout est resté pareil. Révolution, suffrage universel, l'histoire a fait évoluer les choses. Plus d'esclaves et le vote pour tous. Mais nous continuons de bosser dur pendant que d'autres, une minorité, vont au forum débattre de l'organisation de la cité. Oui, mais, heureusement il y a un mais, à chaque fois que l'assesseur actionne sa petite manette en s'exclamant « à voter », chaque fois que des voisins se réunissent pour organiser ne serait-ce qu'une fête de quartier, chaque fois qu'une association se réunit en AG, chaque fois que vous expliquez à vos enfants ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, l'homme confirme la définition d'Aristote. pensez bien à tout ça et dans quelques semaines, en mettant votre bulletin dans l'urne, dites-vous bien, je suis un animal politique. En attendant, merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve le mois prochain pour la dernière de Philotage, une émission sur le thème « La philo, c'est rigolo ».
L'universalité, l'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle, l'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle repose sur la controverse existante entre les individualités d'écriture et l'instinct surréaliste sous-jacent chez la plupart des auteurs, tout en respectant la linéarité de la pensée du monde occidental.
Oh la vache!
Philotage, la philosophie à tous les âges.
La philosophie, ça devrait plutôt être une ouverture sur le monde, se dire, voilà, la philosophie, c'est quelque chose d'ouvert, vous pouvez avoir toutes les opinions, donc profitez-en, dites ce que vous voulez.
Alors, est-ce que vous aimez ça, vous, la philosophie ?
J'aime parce que j'aime bien les histoires que tu racontes, j'aime bien parler, et surtout qu'on parle dans le micro.
Philotage, la philosophie à tous les âges.